Vous écoutez un podcast d'ActuaBD.
Les milliardaires ont un petit peu changé parce qu'ils sont de plus en plus riches. Avec 7 milliards de personnes sur Terre qui consomment des biens, des services, évidemment, ça crée tous les jours de nouvelles fortunes. Et dans l'histoire de la planète, je pense qu'aujourd'hui, certaines personnes ont des fortunes tellement colossales que ça ne s'est jamais produit auparavant. Mais comme je dis, c'est le nombre de consommateurs qui crée cette richesse. Si on prend par exemple le cas de Jeff Bezos avec Amazon, bon, ben, si les gens arrêtaient d'acheter des choses sur Amazon, ils gagneraient moins, évidemment. Donc c'est nous tous qui participons à la fortune de ces personnes. Le personnage de Jarod est en fait plutôt calqué sur celui d'Elon Musk, parce qu'Elon Musk est très intéressé évidemment par la conquête spatiale et surtout la colonisation de Mars. Et on avait imaginé ce personnage de Jarod pour... Qui a de grandes ambitions, qui a envie de laisser son nom dans l'histoire, qui a envie de conquérir Mars, mais sa fortune à lui seul ne suffisant pas, il est de cette histoire, on se rend compte qu'il demande l'aide des 100 plus grosses fortunes de la planète pour pouvoir réaliser son projet. Il existe dans cette histoire, et ce dont on se rend compte, c'est que c'est un idéaliste, voilà, c'est quelqu'un qui a des projets fous. Et évidemment, comparé à l'argot, c'est sûr que l'argot est beaucoup plus idéaliste et beaucoup plus altruiste ou humaniste que Jarod, c'est clair. Mais ce n'est pas un méchant personnage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un juste qui prend ses rêves pour des réalités. Il y a un point commun entre l'amitié entre Simon et l'argot et entre Jarod et l'argot, c'est que ce sont les épreuves qui vont les lier. Parce que quand on risque sa vie dans une épreuve où la mort est au détour de parfois ça peut tenir à quelques secondes. Quand l'un sauve la vie de l'autre, évidemment, ça crée des liens pour l'éternité entre les deux hommes. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que Jarod, en fait, dans la première partie de l'histoire, semble être quelqu'un d'un peu superficiel, un peu gros coup, un peu... ouais, voilà, et il ne donne pas l'air d'être quelqu'un d'hyper sympathique. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est de changer l'opinion qu'on a sur le personnage dans le numéro 2 et inverser la vapeur. Et voilà. Alors, je ne vais pas raconter, je ne vais pas spoiler l'histoire, mais voilà, c'est un peu ce qui se passe avec ce personnage. J'avais envie de mettre l'argot dans l'espace parce que tous les héros, pratiquement, enfin en tout cas Tintin, bon voilà, déjà avec Hergé, avait mis les pieds sur la Lune. Alors, sans aller jusque-là, il me semblait que le tourisme spatial était quelque chose qui était à la portée du personnage, d'autant que moi, ça faisait des années que j'observais un petit peu ce qui se passait avec Richard Branson et sa navette Virgin Galactic. Et ça a été un peu un pari, c'est-à-dire que je savais que les choses allaient à un moment donné s'accélérer, que le premier vol touristique allait avoir lieu. Et quand on a sorti... Alors, quand on a écrit le scénario, il n'en était encore rien. Tout le temps de l'élaboration du bouquin, c'est à peu près 18 mois, je me demandais si ce vol allait avoir lieu. Et l'album est sorti au mois de novembre 21. Et cette année-là, en été, Richard Branson, Jeff Bezos et Elon Musk, tous les trois, ont envoyé leur engin avec des touristes dans l'espace. Et tout d'un coup, ce scénario qui était encore de l'ordre de la science-fiction devenait quelque chose qui faisait partie de notre monde réel. Voilà. Et c'est là où parfois on fait des paris avec l'argot, on se demande si on va tomber dans les temps ou si on va être un peu précurseur ou un petit peu suiveur. Pour le travail à proprement parler avec Eric, il n'y a pas de règles établies, c'est-à-dire que pour La Frontière de la Nuit et Le Sentil d'Or, j'avais émis cette idée parce que j'avais une envie, c'était de commencer un album en surprenant un peu le lecteur, en découvrant l'argot endormi et se réveillant, il découvre qu'il est en apesanteur autour de la Terre. en orbite basse, hein, mais bon, quand même bien haut, à 100 km. Et toute l'histoire allait être un flashback, en fait, de comment il était arrivé là. Et voilà, après, sur l'histoire à proprement parler, Eric écrit, moi je repasse derrière, je structure l'histoire pour qu'elle rentre bien dans 46 pages, et je peux rajouter des séquences ou en éliminer certaines. Voilà, c'est un peu moi qui fais le découpage après et qui organise les pages. Ben, l'argot est définitivement ancré dans son époque, c'est-à-dire que c'est un personnage qui, au fil des aventures, va se situer exactement dans un contexte actuel au moment où le lecteur lit pour la première fois l'album. Après, évidemment, pour les albums précédents et qui ont une dizaine d'années, il faut les replacer dans leur contexte historique. Mais ce qui est intéressant avec l'argot, justement, c'est qu'on peut le faire évoluer à la vitesse du monde. Et comme nous traversons une période de transition avec de grands chamboulements géopolitiques, climatiques, évidemment, toutes ces problématiques-là que les gens ont l'habitude de voir aux infos ou lire dans la presse, font partie, évidemment, de l'histoire qu'on est en train de raconter. Même si ça n'en fait pas un sujet principal dans l'histoire, c'est là, sous-jacent, il y a ces éco-combattants qui apparemment, ont l'air de vouloir tuer du milliardaire. Parce que pour eux, évidemment, les principaux responsables sont les grandes fortunes de la planète, des capitalistes qui mènent la planète à sa perte. Et donc, c'est... Actuellement, ce sont des choses qui sont bien réelles. Ces mouvements émergent par-ci, par-là. Il y a, je ne vais pas les citer hein, pour ne pas leur faire trop de publicité, mais je pense qu'on va vers des mouvements terroristes, écologistes, comme il y en a eu des politiques ou des religieux. Voilà, si les grands dirigeants de la planète ne changent pas leur fusil d'épaule et ne parviennent pas à organiser une transition écologique, je pense qu'il y en a beaucoup qui essayeront de le faire par la force, puisque la politique ne fonctionne pas. Les mouvements terroristes de droite blessent ou tuent le commun des mortels, sans distinction. Les mouvements de gauche ont plutôt l'habitude de cibler les preneurs de décision. On l'a vu avec les cellules communistes combattantes en Italie, avec des mouvements d'extrême gauche. C'était des raptes et puis des demandes de rançon ou des exécutions de capitaines d'industrie. L'argot est un milliardaire un peu particulier parce qu'il n'est pas responsable déjà de sa fortune, il ne l'a pas cherché. Il essaye d'en assumer la responsabilité, ce qui est déjà pas mal. Et il essaye de modifier en profondeur la structure de son groupe avec ses moyens, parce que sans évidemment licencier les 500 000 personnes, ou les 700 000 je crois aujourd'hui, qui travaillent dans son groupe à travers le monde, et parce que c'est un humaniste avant tout. Son but n'est pas de faire plus d'argent, son but est de donner un job aux gens qui travaillent pour lui. Mais tout en essayant de faire, si c'est possible dans ce monde, de faire des affaires propres. Les changements graphiques qui peuvent intervenir dans la série, en fait, j'en suis pas réellement responsable parce que c'est mon dessin qui évolue au fil des années. Après, l'énergie qu'on trouve pour attaquer un nouveau diptyque, elle vient essentiellement de la nouvelle histoire qui est très différente de la précédente et qui sera très différente de la suivante. Et donc, les éléments qui vont me donner cette énergie, ça va être par exemple un pays que je n'ai encore jamais dessiné, ça peut être de nouveaux personnages que j'amène sur la scène de la fiction. Et puis... Voilà, et on peut pas, si on regarde un peu la série et qu'on prend un album au hasard, ils ne ressemblent en rien au précédent et au suivant. Ils ont tous une coloration très très distincte et personnelle. On peut pas confondre deux albums.
Et donc maintenant, vous êtes en train de travailler, j'imagine, ou bientôt en tout cas, sur le prochain diptyque avec Eric.
Le scénario est écrit. Si les dieux t'abandonnent, ferme les yeux avec les trois petits points entre les deux titres, un peu comme dans Voir Venise et Mourir. C'est écrit. Voilà, ça, je commence le dessin au mois de décembre en rentrant de ma tournée promotionnelle pour ce numéro 24.
Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous au podcast d'Actua BD pour ne manquer aucun épisode. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Merci et à bientôt sur Actua BD.